à la veille justement de Noël, je trouve que ça peut être bien justement de découvrir ce qu'est un peu plus l'humilité. Alors sur la feuille que vous avez en exergue une phrase de Picasso, qui n'est pas un docteur de l'Église, comme vous le savez. Hein, une petite impatience peut mettre en péril de grands projets. Donc on parlera du rapport au temps. Et puis une autre phrase de Saint Paul, que j'aime beaucoup, qui dit aussi quelque chose de l'humilité. Que n'as-tu que tu n'aies reçu ? Que n'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors d'abord, la première chose, c'est la définition. La définition du mot, donc humilité, c'est ça vient de humus, c'est-à-dire terre, c'est-à-dire terreau, on peut dire c'est le terreau de la vie chrétienne, c'est ce qui va faire que mes talents vont pouvoir aussi porter du fruit, c'est ce qui a formé le mot homme, évidemment, mais aussi c'est important de se rappeler que l'humilité, c'est une vertu. Et c'est une vertu, c'est-à-dire que, c'est quoi une vertu ? C'est une disposition permanente en nous, une manière d'agir en nous qui s'acquiert par la répétition des actes. C'est-à-dire que on devient humble en posant des actes d'humilité, on verra en quoi ça consiste. On devient courageux en posant des actes de courage, mais un seul acte, on devient honnête en posant des actes d'honnêteté, mais un seul acte d'honnêteté, de courage ou d'humilité ne nous rend pas à la fois honnête, courageux et humble. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a la répétition des actes. Et une répétition des actes qui, par rapport à l'humilité, sur chacun d'entre nous, on a un point particulier, ça peut être intéressant, de dire où est-ce qu'est le point que l'on a à travailler davantage. Où est-ce qu'il y a peut-être l'un ou l'autre des aspects que l'on va évoquer ce soir, auxquels vous n'aviez pas forcément pensé, et qui vraiment nous appelle à une conversion, au fond. Hein. Donc c'est du domaine de l'acquis. Et donc, du coup, ça veut dire aussi, c'est important de dire, de prendre un point accessible. Vous savez que le temps de l'Avent que nous sommes en train de vivre, de cette préparation Noël, c'est aussi un temps de conversion. Donc, quel est le point accessible, concret, simple, que je peux faire, prendre pour ce temps qui me reste encore et qui nous sépare à Noël, pour pouvoir grandir dans cette humilité. Donc, l'inverse de l'humilité, évidemment, c'est l'orgueil, la volonté de puissance, tout ce qui est domination, désir d'avoir raison. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose en nous, il y a. Et même face au Seigneur, et même face aux autres, et peut-être encore plus aussi face aux autres, on voit ce désir, surtout, qui est tellement fort dans notre société, parce qu'il est fort en chacun, d'imposer ses propres vues. Et ça, je crois qu'on n'est pas du tout dans cette dimension d'humilité, d'écoute, de chercher ce qu'il y a de vrai dans ce que l'autre dit. Dans les débats d'idées, comme on en a eu beaucoup l'année dernière, au début de cette année, chacun allait avec ses idées très affermies, mais sans vraiment un désir de comprendre ce que vraiment l'autre veut. Et je trouve que ça, c'est un peu une forme de volonté de puissance, quoi, d'avoir raison. Alors, la première chose à laquelle on ne pense pas forcément, et je vais traiter différents aspects de l'humilité, c'est l'humilité face au temps. L'accueil de son rythme. Et encore plus, j'allais dire, l'accueil du rythme de l'autre et l'accueil du rythme de Dieu dans notre vie. La question du temps, je crois que ça nous renvoie immédiatement à la question de la limite. C'est-à-dire que forcément notre temps est limité, c'est une évidence, mais non seulement il est limité, mais du coup, et je trouve peut-être plus vous qui êtes jeunes adultes, jeunes professionnels sur Paris, donc avec beaucoup de sollicitations, du coup je trouve que c'est pas évident de, avec parfois aussi la peur d'un certain agenda vide, est-ce que j'accepte la limite du temps ? Est-ce que je veux faire rentrer dans 24 heures plus que 24 heures ? Moi, je vois comme ça des personnes qui veulent absolument pas perdre une minute. Et puis, tout nous pousse. Quelque part aussi, les nouvelles technologies, je trouve, ont changé notre rapport au temps. Il y a une condensation du temps. Là, vous auriez pu, en attendant, peut-être vous avez répondu à un mail ou à un texto. Moi, j'ai répondu à un texto, par exemple, etc. Donc, il y a comme une forme de... Du coup, derrière ça, il n'y a plus de place pour une vie contemplative, une dimension contemplative. La dimension contemplative, c'est pas fait que pour les moines. La dimension contemplative, c'est fait pour tout un chacun, ne serait-ce qu'au plan humain. parce que vous avez, certains d'entre vous ont un parcours spirituel, mais pas tous aussi, vous venez pas pour vous former, et bon, donc, et ça, un certain nombre me l'ont dit, ben, vous n'êtes pas forcément pratiquant, et je crois que SPNSP a une vraie grâce aussi de pouvoir mêler la foi à autre chose, pour la rendre comme une sorte de marche, un peu plus accessible qu'une retraite en silence ou des exercices de chant. Ben justement, mais il y a une dimension contemplative sans forcément la foi, par exemple. C'est intéressant. Je me suis posé la question, pourquoi être humble si on n'a pas la foi? Parce que derrière l'humilité, il y a l'imitation du Christ. Mais du coup, je me suis dit, quelqu'un qui viendrait à la conférence ne serait pas croyant, il pourrait se poser la question, mais au fond, pourquoi être humble si on n'a pas la foi? Ou si on n'est pas pratiquant, ou si la personne de Jésus reste une personne, ben voilà, comme Mandela, comme Gandhi, comme voilà, ces grandes figures de l'humanité, voilà, sans être le centre de notre vie. Et donc du coup, je crois que, et je posais la question aux frères à midi. Je dis, qu'est-ce que vous répondiez? Alors j'ai un peu challengé les frères, voir un peu qu'est-ce qu'ils répondent. Et il y en a un qui m'a dit, au fond, l'humilité, c'est ce qui permet aussi de conquérir le cœur de l'autre. Et du coup, ça veut dire que face à l'humilité et à la limite, que je parle de la question du temps, c'est aussi le rapport au temps dit quelque chose de mon rapport aux autres, dit quelque chose de ma manière de faire que les autres vont pouvoir ou non accomplir ce que moi je veux. Parce que forcément, si j'ai dans un temps déterminé, du coup je peux très bien, par manipulation, par volonté de puissance, faire que l'autre rentre dans mon rythme et ne pas être à l'écoute du rythme de l'autre. Et donc je crois que c'est intéressant de se dire que, au fond, l'humilité est comme la vie contemplative. Il y a une dimension spirituelle, mais dans la vie contemplative comme dans l'humilité, il y a une dimension, je vais dire, humaine, qui nous ramène à l'essentiel. Et de dire qu'au fond, il est plus facile de rentrer en communion avec quelqu'un d'humble qu'avec quelqu'un qui veut dominer sur vous. Ça, je pense que c'est l'expérience commune, il n'y a pas besoin de détailler 36 fois. Et donc du coup, je crois que de ce point de vue-là, c'est notre rapport, quelle est notre humilité par la question de la patience. La question de la patience, hein, j'ai marqué en exergue la phrase de Picasso, mais qui est assez intéressante, parce que la question où est-ce qu'on en est de l'accueil du contre-temps? Est-ce que dans nos vies, dans l'agenda, par exemple, moi, j'ai l'habitude d'être très concret, est-ce que dans notre agenda, il y a une place pour les contretemps, il y a une place pour le grain de sable qui va rentrer dans la machine et qui va faire que toute la machine va se cripper, où tout est côte à côte, tellement serré que dès qu'il y a un contretemps, allez hop, c'est fini. Et dès qu'il y a un contretemps, du coup, ça engendre du stress, du coup, ça engendre aussi de la colère, ça engendre des tensions entre les personnes. Par exemple, la question du retard, bon, ou de la ponctualité. Ponctualité ou retard? Ça, c'est une vraie question, parce que je me demande pourquoi il y en a qui sont toujours en retard, pourquoi il y a toujours qui sont à l'heure, par exemple. Mais c'est très difficile d'être à l'heure, vous voyez, par exemple, c'est... Nous, dans la vie religieuse, ça, à chaque fois, je me fais là, en fait, là. On a nos offices, ils commencent à l'heure pile. Et du coup, quand un frère arrive en retard, eh bien, il va s'incliner auprès du... il fait amende honorable, bon, voilà, auprès du frère supérieur, voilà, en demandant pardon, au fond, à la communauté d'avoir été en retard. Mais la question d'une certaine manière, de ne pas se mettre de limite dans le temps, dit aussi une certaine... autosuffisance ou volonté de dominer, les autres m'attendent. Vous voyez, donc il faut bien faire le lien entre le rapport au temps et le rapport aux autres, et le rapport à l'humilité. Parce que c'est ce qui me paraît peut-être le plus difficile à gérer quand on est dans une vie active comme vous êtes, parce que voilà, c'est parce que le rythme de l'entreprise, tout simplement, bah, c'est un rythme qui ne vous laisse pas de temps pour respirer. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une compression du temps partout. On vous donne plus de travail que vous ne pouvez en faire dans le temps imparti. Hein, donc voilà. Donc c'est l'accueil derrière ça, c'est l'accueil de la limite, l'accueil du manque, hein, de découvrir aussi que le manque, n'ayons pas peur de la page d'agenda vide ou de la page de soirée vide, parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Je parlais comme ça à des jeunes, ils me disent, ben, on a peur de louper quelque chose, on a une invitation, on va certainement... voilà. Et donc, ben, n'ayez pas peur aussi d'avoir un temps chez vous, par exemple. Hein, Vous pouvez rester hein, si vous voulez, mais en tout cas, je crois que c'est pas. N'hésitez pas à avoir un temps aussi. Où est-ce que vous en êtes dans la dimension contemplative de votre vie? Moi, ça me résonne comme ça aussi. Où est-ce que vous en êtes de cette dimension de regard, de gratuité, de temps pour vous, de temps, et aussi derrière ça, de temps pour Dieu aussi. Parce que derrière ce temps pour Dieu, c'est aussi l'accueil de la découverte de la présence du Seigneur dans notre vie. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est le rapport au temps, c'est aussi le rapport donc au manque. Est-ce que j'accueille le manque comme... parce que le temps, c'est ce que je ne peux pas contrôler ou que difficilement. Est-ce que je l'accueille comme aussi une providence? Est-ce que j'accueille ce manque de tout dans une société qui veut tout organiser, qui veut tout contrôler, risque zéro, qui veut, vous voyez, on veut tout avoir en main. Est-ce que j'accueille quelque chose de l'ordre du manque que j'ai pas prévu, la chose que j'ai pas prévue? Hein, et je pense de ce côté-là, c'est la patience, humilité et patience, ça je vous l'ai dit, qui sont deux vertus très, très liées, qui est liée aussi à la douceur. Parce qu'au fond, mon rapport au temps, ça me dit la question du rapport aux personnes, c'est évident, mais du coup, d'une certaine douceur dans ma vie. Avoir un temps trop compressé, ça veut dire aussi des relations qui sont trop compressées, des relations qui manquent de paix, qui ne sont pas dans une attitude de sérénité, vous voyez, parce qu'il n'y a pas le temps qu'il faut pour ça. Et je peux être tout à fait injuste par rapport à quelqu'un, tout simplement parce que je ne lui consacre pas le temps qu'il aurait droit au nom de nos relations. Je pense à nos parents, par exemple. Ben voilà, quel temps je leur consacre. Je pense à des amis. Je pense, voilà. C'est intéressant de se dire, est-ce qu'on n'a pas été injuste aussi dans cette manière d'attribuer le temps, et évidemment le temps pour Dieu dans la prière? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, de réfléchir et de découvrir aussi qu'à travers cette douceur et cette gestion du temps qui laisse respirer, il peut émerger autre chose. La deuxième chose, c'est, j'ai marqué, un rapport, avoir l'argent humble et non pas honteux. L'argent, le rapport à l'argent. En quoi il y a une humilité par rapport à ça? C'est pas tellement avoir beaucoup ou peu, c'est pas tant dans l'ordre du quantitatif. C'est beaucoup plus dans l'ordre de l'attitude intérieure. Est-ce que je demande, au fond, est-ce que déjà j'ai une clarté par rapport à l'argent? Donc la question de l'honnêteté. Ce qui n'est pas, par exemple, bon, pour certains d'entre vous, ça pose pas de problème, la déclaration d'impôts, si ce n'est qu'ils doivent payer les impôts, mais parce que vous n'avez qu'une activité de salarié, donc comme c'est transmis aux impôts, voilà, donc vous n'avez pas beaucoup le choix de déclarer autre chose, mais peut-être d'autres ont d'autres sources de revenus, du coup, dont les impôts ne sont pas au courant, par exemple, alors, ou alors des revenus même à l'étranger, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je déclare? Pourquoi c'est important d'avoir une honnêteté par rapport à ça? Parce que ça dit aussi mon honnêteté par rapport à la société, par rapport à ça dit aussi une humilité. J'accueille aussi le fait de respecter la loi, c'est aussi une humilité. Et quand on a franchi un excès de vitesse, ça m'est arrivé cet été, on s'est fait arrêter par les gendarmes. On devrait, en toute humilité, remercier le gendarme de nous rappeler à la loi et de nous mettre un PV, n'est-ce pas? Parce que il nous a ramené à la loi qui était marquée à 90 et non pas 130, par exemple. Hein, voilà. Donc, je trouve c'est intéressant de dire le rapport à l'argent, la question de l'honnêteté, donc un peu de, et puis de pas demander, là où il y aurait une forme d'orgueil, par l'orgueil de l'argent, de pas demander à l'argent, à l'avoir de nous donner l'être. Quand je dis argent, c'est le patrimoine, ça peut être des maisons de famille, ça peut être, etc. De pas demander à l'avoir de nous donner l'être. Le fait d'avoir un certain orgueil de l'argent, c'est justement prendre la question matérielle et vouloir exister à travers elle. Et c'est là où je crois qu'il y a une manière d'orgueil. Hein, l'orgueil de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que Jésus a pris ça. Je veux dire, on ne peut pas aimer Dieu ou l'argent. Pourquoi est-ce qu'il a pris ça comme exemple? Parce que quelque part, l'orgueil de l'argent donne c'est aussi le pouvoir. L'argent donne le pouvoir, un certain pouvoir sur l'autre. Et du coup, est-ce que parce que j'aurais aussi une humilité, donc accepter une limite, accepter une loi objective qui détermine justement le rapport à l'autre, je crois que c'est aussi une manière d'être humble, hein, de ce point de vue-là. Ensuite, le rapport face au corps. Ça, je crois que dans la perspective de Noël, on ne peut pas ne pas méditer sur cette question-là, où Jésus lui-même, Dieu, nous croyons comme chrétiens, en tout cas ceux qui y croient que le Seigneur lui-même, eh bien, a pris cette nature humaine et qu'on voit un peu la distance de ce qu'est Dieu et notre fragilité humaine. On ne peut que rester dans la contemplation du mystère, dans quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, je crois que c'est important d'accueillir son propre corps, c'est-à-dire que ce soit par la limite, par les maladies, par le handicap, par les accidents de la vie, etc. Voilà, qui fait que mon corps, par la fatigabilité, il y en a qui sont plus résistants, il y en a qui sont moins résistants, etc. Est-ce que j'accueille? Où est-ce que j'en suis de l'accueil de mon propre corps comme un pédagogue qui me montre un chemin d'humilité? Parce qu'au fond, c'est ça, c'est le corps qui me détermine aussi, qui m'aide à découvrir que je ne suis pas tout puissant, je ne peux pas tout. Et découvrir ça, c'est quelque chose de beau, parce que ça nous aide dans notre vie spirituelle. Hein. Et donc, au fond, le rapport au corps, c'est un rapport très intime, mais aussi un rapport qui nous aide beaucoup dans l'accueil de ma réalité humaine. Parce que je suis dans un accueil de ma réalité humaine, alors du coup, c'est ça aussi l'humilité. Simplement accueillir, pas vouloir être autre que de même accueillir sa famille, accueillir sa réalité professionnelle, accueillir ses collègues, non pas comme je rêverais qu'ils soient, mais comme ils sont. Et donc, voilà. Par rapport au corps, c'est la question de la chasteté. La chasteté, je vous ferai juste un peu le rapport, ou souligner que la chasteté est différente de la continence. La continence, c'est l'absence de relations sexuelles, alors que la chasteté, c'est un juste rapport au corps de l'autre. Et on parle de chasteté conjugale à l'intérieur même des rapports intimes du couple. Donc, c'est intéressant de dire aussi, est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'orgueil du corps ou de demander à l'autre de satisfaire mes désirs corporels et en la matière sexuelle. Et ça, c'est un orgueil du corps. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la chair. Hein, l'orgueil de la chair, c'est-à-dire faut de demander à l'autre d'être serviteur de mes passions. Et je crois que de ce côté-là, à chacun d'entre nous de revisiter peut-être, d'avoir un juste rapport au corps. Le corps de l'autre n'est pas le prolongement de mon propre corps. Hein, vous voyez, c'est contrairement à l'enfant qui voit la mère comme le prolongement de son propre corps. Nous, au contraire, on est appelés à une séparation, comme on dit, couper le cordon, et faire que le corps de l'autre, on n'a pas à l'utiliser comme un objet de jouissance. Hein, ça, c'est à séparer le corps de la personne. C'est assez intéressant de voir que vous avez peut-être suivi les débats sur la loi sur la prostitution, et c'était Najat Vallaud-Belkacem qui faisait tout un rapport justement en faisant le lien entre le corps et la personne. Et j'aurais pas vu qui avait écrit ça, j'aurais cru pratiquement du Jean-Paul II, même si je pense qu'il y a une singulière différence entre les deux. Mais parce que c'est vrai que le corps de l'autre me rappelle à la personne de l'autre. Et c'est quoi l'orgueil? C'est séparer le corps de l'autre de la personne de l'autre. Ce n'est plus, c'est le principe de la pornographie, entre autres. La personne n'importe plus. Ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs sexuelles qui m'excitent. Voilà, donc je crois que c'est intéressant de dire qu'il y a aussi une forme d'orgueil de vouloir soumettre l'autre à mes propres désirs, à mes propres pulsions. Ensuite, l'humilité de l'intelligence, qui est certainement la plus difficile, l'humilité de l'intelligence. Parce que dans notre intelligence, il y a quelque chose d'infini. Dans notre intelligence, il y a quelque chose qui dépasse. Une capacité au fond de découvrir Dieu lui-même et de connaître qui est infini. C'est vrai qu'on pourrait à la limite tout connaître.
Autant on ne peut pas tout porter parce qu'il y a des chaussons trop lourdes, autant on ne peut pas tout supporter dans le terme de froid ou de chaleur, etc. Mais en tant que connaissance, il suffit d'avoir la science pour, puis on pourrait connaître. Bon, ça demande du temps, etc. Mais du coup, il y a quelque chose, et c'est ce qui nous rend aussi semblables à Dieu. Et je trouve cette dimension de, au fond, de, dans l'intelligence, d'avoir une humilité, c'est certainement le combat le plus important. Dans la vie religieuse, vous savez qu'on fait les trois vœux, le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Et beaucoup de gens insistent sur le vœu de chasteté. Ah, qu'est-ce que ça doit être difficile, etc. Bon, c'est pas toujours simple, ça, je suis d'accord. Mais c'est beaucoup plus difficile le vœu d'obéissance. Parce que c'est soumettre sa propre intelligence à l'intelligence d'un autre. Et accepter qu'un autre dise aussi la manière dont il voit les choses, et on le voit dans c'est la vie religieuse, mais dans la vie de couple, par exemple, ben on voit bien, dans une vie de groupe n'importe laquelle, comment est-ce qu'on organise une sortie, comment est-ce qu'on fait un plat, comment, etc. Chacun a son idée. Et c'est intéressant de voir que nous avons cette capacité, l'humilité de l'intelligence, au fond, c'est accueillir le réel, c'est accepter de ne pas avoir le dernier mot, c'est accepter de ne pas avoir toujours raison. Même si je pense que j'ai raison, mais bon, mais en tout cas, j'essaie de ne pas le dire trop. Mais justement, je crois qu'il y a quelque chose d'infini dans l'intelligence et dans la volonté aussi, parce que c'est avec l'intelligence et la volonté qu'on va, connaître Dieu, on va l'aimer. Il y a quelque chose d'infini. Mais justement, il y a un combat intérieur pour ne pas donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. Il ne faut pas donner à nos désirs l'infini. C'est le piège. Vouloir donner à nos désirs l'infini de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont un orgueil, tout simplement, ce qu'on appelle l'orgueil, très clairement, de pouvoir, d'avoir, de savoir, etc. Voilà, je peux toujours plus, je peux toujours... Voilà, et je me marque, voilà, c'est mon intelligence qui... Et je crois que de ce fait-là, c'est... Il y a quelque chose qui est très... très beau, c'est de dire, au fond, que les grandes intelligences sont souvent des personnes très humbles. Et je trouve que ça... Parce que quelqu'un qui est trop intelligent, ça, l'humilité... Bon, s'il n'y a pas l'humilité au rendez-vous, même une qualité deviendra un défaut. Quelqu'un qui a, par exemple, une grande intelligence, mais qui vous fait sentir, qui dit « je », parce que l'orgueil, c'est ça, c'est se prendre soi-même comme centre d'activité, comme point de départ. Je pense à moi et je pense pour moi. Donc à partir de moi et pour moi, c'est ça l'orgueil. C'est cette forme de repli sur soi-même, cet effet de boucle. Alors que dans l'humilité, il y a cet effet d'ouverture. Et donc dans l'intelligence, c'est donc savoir accueillir l'autre et dans sa différence, mais aussi c'est accueillir. J'ai marqué là. J'aime bien cette citation de Pascal. Qui dit « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. » Voilà, les circonstances de nos vies, ce qui s'impose à nous, qu'on n'a pas forcément choisi, mais qu'on a à accueillir, alors pour ceux qui ont la foi, de la main du Seigneur, vraiment, qu'on a à accueillir de façon à ce que... voilà, c'est ça aussi l'humilité. Face à ça, à contrario de ça, il y a la révolte. Il y a vouloir soi-même que le réel soit à mon image et ressemblance, que le réel soit ce que moi je veux qu'il soit. Hein, et donc du coup, on voit bien qu'il y a un combat en nous. En même temps, vous me direz, en même temps, des grands hommes, parce qu'ils avaient une grande intuition, ont transformé le réel. Hein, ça c'est sûr, ça, je crois que c'est... Mais en même temps, ces grands hommes, bien souvent... ont eu des étapes à vivre. C'est intéressant qu'on voit la vie de grands personnages. À un moment donné, l'orgueil les a rejoints et ils ont perdu. Alors qu'ils auraient dû laisser la main et laisser dans l'histoire une grande trace, je pense à Napoléon, qui est absolument un génie, extraordinaire. Mais à un moment donné, oui, on donne à ses désirs l'infini de l'intelligence, le désir de conquête, le désir de possession, de ne pas accueillir la limite, de dire voilà, parce que c'est vrai parce qu'il y a quelque chose d'infini en nous. Alors, comment est-ce que chacun d'entre nous, on gère cet infini, et entre autres dans la dimension de foi, ça nous permet, l'accueil de Dieu répond à notre quête d'infini. Mais non pas comme une volonté de puissance, mais comme Dieu lui-même qui vient féconder dans la prière notre intelligence et notre cœur. Donc, c'est intéressant de se poser la question. Et puis aussi de se dire que le réel vient féconder mon intelligence. Le réel, c'est ce qui, la définition du réel, c'est ce qui résiste. Hein? Et on voit bien que nos humanités, c'est le premier réel qui nous résiste. C'est ce qui résiste, qui nous résiste à nous. Et donc, du coup, de voir que l'humilité, ce sera cet accueil du réel qui est autour de nous. Ben, nos humanités sont parfois lourdes, ça c'est vrai. Les humanités des autres, je veux dire, sont encore plus lourdes, quelque part. Et puis ensuite, voilà. Mais est-ce que l'humilité, ça ne va pas être aussi dans cet accueil du réel au fond, d'avoir un certain profond accueil de ce qui m'est donné de vivre. Hein, alors, la dimension de la foi, je ne sais pas où est la dimension de la foi, qui rend humble l'intelligence, c'est l'élève. Parce que la foi, c'est ça, ce qui est beau dans la foi, c'est, et on ne le voit pas toujours, on met beaucoup la foi dans la sensibilité. Or, la foi n'est pas dans la sensibilité, c'est-à-dire, elle n'est pas dans le ressenti. La foi est dans l'intelligence. Et la foi élève mon intelligence a des réalités que je ne peux pas percevoir par les sens. Hein, et donc il me faut, ça s'appelle une révélation. Et donc la foi, c'est l'adhésion de mon intelligence à un Dieu qui se révèle. Hein, et donc du coup, c'est intéressant de voir que la foi, au fond, quelque part, demande une humilité ou contribue à l'humilité de l'intelligence en lui disant qu'elle n'est pas toute puissante, qu'il y a des choses qu'elle ignore, que le mystère de Dieu la dépasse. Que le mystère de la personne nous dépasse chacun. Le mystère, quelque part, nous met en perspective notre intelligence et permet à la fois elle peut librement s'exprimer, et je trouve ça la grâce dans la foi catholique d'avoir ce travail de l'intelligence, de la foi chrétienne en général, de vraiment à partir des données entre autres de philosophiques, hein, de grecs qui sont païennes avant le Christ, mais qu'on a repris pour permettre à l'intelligence, je veux dire, de chevaucher largement dans le mystère de Dieu sans jamais s'épuiser, mais sans jamais imposer à l'autre sa propre vue, c'est-à-dire que quelque part le mystère de Dieu me dépasse de toutes parts. Donc c'est beau de voir que l'humilité, au fond, la foi me rend plus humble, parce que ça me met en perspective la perspective de la vie éternelle. Vous voyez, rien que ça, ça me rend plus humble, ça donne une force et à la fois à mon intelligence de pouvoir travailler sur le mystère de Dieu sans jamais m'épuiser, voilà. Hein, donc, mais au fond, le mystère pour de notre vie, c'est aussi de découvrir que on a à passer par la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres, c'est la première des béatitudes, et c'est la première, et c'est celle qui se conjugue au présent. Hein, le royaume des cieux est à eux. Et donc, du coup, de voir que notre intelligence doit passer par la béatitude des pauvres, c'est-à-dire d'être d'abord dans cet accueil de la réalité, d'être dans cette disponibilité du cœur et de l'esprit. Hein, voilà. Ensuite, l'humilité dans la volonté. Alors, la volonté aussi... Alors, attends, on va bien se comprendre. L'humilité, ce n'est pas avoir de volonté. Quand vous avez peut-être entendu cette expression « volonté propre ». Hein, la volonté propre, c'est pas qu'il y ait une volonté sale, mais c'est la volonté propre, c'est au fond vouloir imposer sa décision, son avis, faire que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est ça la volonté propre, vouloir imposer sa décision. Mais l'humilité ne vient pas abdiquer notre volonté, c'est pas ne pas avoir de volonté, c'est avoir une volonté qui se laisse éclairer par l'intelligence, qui se laisse éclairer par le réel. Donc du coup, la volonté, elle a toute sa place, mais c'est juste qu'elle a à accueillir une limite. Je ne suis pas Dieu. Et on voit bien dans la description, par exemple, du péché originel, ça c'est très fort, dans la description du péché originel, eh bien, voilà, vous serez comme des dieux. Il y a cette tentation en nous
dans certaines personnalités plus que dans d'autres, de vouloir que tout se réalise, voilà, comme moi je le pense et je le veux, et que ma volonté s'impose à l'autre. Donc c'est intéressant de se, quelque part, de découvrir que dans notre volonté, je vais pas marquer le désir d'avoir raison, par exemple, la volonté de puissance, ou alors les faiblesses dans notre volonté nous rend humbles aussi. Comme dit saint Paul, on ne fait pas le bien qu'on veut et on fait le mal qu'on ne veut pas. Et donc du coup, c'est intéressant de dire, par rapport à ça, où est-ce qu'est ma humilité? Est-ce que j'accueille ces faiblesses? Est-ce que je les travaille? Est-ce que je les reconnais? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans un déni? Donc à travailler aussi sur l'humilité et la volonté, ça peut être une des pistes. Et puis l'humilité, puis la sensibilité. Tout ça était intéressant de découvrir au fond que notre sensibilité, c'est marrant parce qu'il y en a qui appellent sensibilité chez eux ce qu'ils appellent susceptibilité chez les autres. Moi, qu'est-ce que je suis sensible? Mais elle, qu'est-ce qu'elle est susceptible? Alors ça, c'est vraiment intenable. Eh bien non, je crois qu'on a aussi on ne choisit pas forcément sa sensibilité. On choisit, parce qu'on n'a pas, il y en a qui ont une très grande sensibilité, il y en a qui réagissent très vite et qui s'enthousiasment très vite ou se découragent très vite ou s'émeuvent très vite, sont très émotifs et etc. Et puis il y en a d'autres qui au contraire ont une sensibilité. Vous voyez, dans l'éducation, c'est intéressant de voir, dans l'éducation, ce qui se transmet le plus, c'est la sensibilité, c'est des émotions. Et donc cette sensibilité intérieure qui fait qu'il y a des éducations, voilà, on voit qu'on a une même manière de sentir le réel, de l'approcher, de le découvrir, etc. Et donc je crois que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que face à mes émotions, est-ce que je les accueille telles qu'elles sont, est-ce que je laisse la place aux émotions aussi dans ma vie, ou est-ce que je vais les contraindre? Mais en même temps, l'humilité de l'émotion, c'est quoi? C'est dire, ce n'est pas l'émotion d'avoir le gouvernail de ma vie. Je dis ça parce qu'on est dans une société très émotionnelle, très, très dans la sensibilité. Vous voyez, on touche beaucoup la sensibilité des gens, et peu leur intelligence. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de manipuler des personnes à travers la sensibilité qu'à travers l'intelligence. L'intelligence nous laisse libres, au fond. Hein. Je trouve ça intéressant de dire, dans notre sensibilité, voilà, elle est là. L'humilité, c'est pas de pas avoir de sentiments, c'est pas de mettre comme une cocotte minute dont on boucherait, on bloquerait le bouchon, voilà, de pas revouloir sentir ça, nos colères, par exemple, on a de la colère, on a de la joie, on a de l'enthousiasme, on a de la tristesse, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de nos sentiments. Mais est-ce que ils sont là? Mais je ne veux pas. L'humilité de la sensibilité, c'est accueillir que ce n'est pas elle de prendre le gouvernail de ma vie. Ce n'est pas elle de prendre le gouvernail de ma vie. C'est pas sous des coups de sensibilité, des coups d'émotion, un coup de ressenti que je gouverne ma vie. Parce que ça, à mon avis, on va dans le mur comme ça. Et on voit des personnes, moi je vois en accompagnement, par exemple, en accompagnement spirituel, etc. Je vois des personnes qui ont pris des chemins pensant bien faire, parce qu'on pense toujours bien faire, qui ont pris des chemins, mais qui, à coup d'émotion, qui n'ont pas mis assez l'intelligence au cœur même de leur réflexion, de leur discernement. Hein, donc c'est aussi intéressant de voir ça. Et dans la sensibilité, j'ai parlé aussi de l'imagination, parce qu'il y en a qui ont une imagination très féconde, très fertile, etc., qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans un autre monde. Au passage, la foi n'est pas aller dans l'imaginaire. Ce n'est pas ça la foi. Au contraire, c'est rentrer dans un réel avec la lumière de Dieu. Donc c'est tout à fait autre chose, la foi. Mais l'imaginaire, et c'est vrai, ce monde virtuel peut parfois aussi nous mettre un peu dans une dimension de, comment on peut dire, de déconnecter de la réalité. Encore une fois, on revient à la même chose. On se déconnecte de la réalité. Et donc, du coup, c'est important de découvrir nous-mêmes que dans notre propre vie, eh bien, on a à mettre notre imagination à l'écoute du réel. C'est ça qui va faire que je vais quitter ce monde imaginaire comme, dans l'imaginaire, je suis toujours bien parce que c'est toujours à mon image et ressemblance, forcément. Mais je vais quitter ce monde de l'imaginaire pour accueillir la vraie relation à l'autre. La relation, l'autre, lui, n'est pas imaginaire. Et toute relation à l'autre, d'une manière ou d'une autre, m'invite à un accueil, au fond, à une humilité. Voilà. Hein, donc, parce que c'est l'autre, l'altérité, c'est-à-dire que l'autre soit autre, ben forcément, ça m'invite à une humilité. Parce que je n'ai pas le dernier mot, l'autre n'est pas comme moi, je veux qu'il soit. Hein. L'autre, c'est ce qui me résiste aussi. Humilité et courage. Parfois, je trouve, surtout un peu dans l'éducation catholique, etc., l'humilité, c'est comme on dit, mais voilà, excuse-moi de demander pardon, c'est un peu, voilà, je me fais tout petit, comme une certaine, comment on pourrait dire, dévalorisation de soi-même. Et j'ai trouvé, en travaillant dans saint Thomas d'Aquin, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant de voir qu'il relie l'humilité et la magnanimité. La magnanimité, magna anima, c'est-à-dire avoir une grandeur d'âme. Et c'est quoi avoir une grandeur d'âme, si ce n'est désirer des grandes choses, avoir des grands désirs, avoir le grand désir du bien, du beau, du vrai, avoir des grands désirs pour soi-même, pour l'autre, pour ceux qui sont en couple, pour votre couple, des grands désirs aussi pour votre pays, pour votre paroisse, votre église, votre communauté, etc. Bon, avoir des grands désirs, ça ne s'oppose pas à l'humilité. Et je trouve ça très, très beau parce que ce qui s'oppose, au fond, ce qui est une manière d'orgueil, c'est ce qu'on appelle la pusillanimité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, la pusillanimité, avec deux L. Eh bien, pusillanimité, c'est au contraire celui qui dit ben, je veux rester dans mon petit coin, surtout qu'on m'oublie, et qui se croit humble par surcroît, alors que c'est un fiefé orgueilleux, parce que d'une certaine manière, il veut se protéger, il veut pas trop se révéler, il veut se mettre de côté, et puis voilà, et attendre que... Alors que, où est-ce qu'on voit quelqu'un de vraiment humble? C'est qu'il a des grands projets, mais il accepte la critique, il sait se remettre en cause, il accepte l'échec, il accepte l'épreuve. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment de l'humilité, tout en ayant ce désir d'avancer et d'avoir un vrai amour de la finalité, de l'objectif qu'il poursuit. Hein, et on le sait bien, dès qu'on met en avant, dès qu'on a l'initiative de quelque chose, on se révèle soi-même, et donc du coup, forcément aussi, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on peut être tenté de se décourager, et puis aussi d'être soumis à l'échec ou à la critique ou aux épreuves de toutes sortes. Donc, tout ça, très beau de voir qu'au fond, l'humilité, un des sens de l'humilité, c'est le courage. Le courage d'avoir des grands désirs et d'aller. Il y a des grands désirs qui vous habitent et que ces grands désirs d'aller jusqu'au bout. Vraiment d'aller jusqu'au bout et de pas avoir peur. Au contraire, la peur est mauvaise. Et mauvaise, ça fait partie des émotions. Elle est mauvaise conseillère. Et je trouve de ce point de vue-là, c'est vrai que le pape Jean-Paul II. A été une grande figure d'un homme qui n'a pas eu peur, je veux dire, face au communisme, d'un homme vraiment, les deux papes qui ont suivi, c'est des tempéraments très différents, mais on voit que la magnanimité en lui a été très forte, et pas pour sa propre gloire, je veux dire, pas pour sa propre... c'est ça où on voit. Il y a à la fois je désire des grandes choses, à la fois je suis très. C'est pas pour moi que je le désire. C'est pour le bien en général, le bien de l'autre. La personne de Jésus, évidemment, hein, ben c'est celui qui donne sa vie. Ma vie nulle ne la prend, c'est moi qui la donne. Il y a un grand désir de salut dans le Christ, au dépens de sa propre vie. Et c'est là où on voit les grandes âmes, c'est celles qui sont capables de se donner au dépens d'elles-mêmes. Mais qui sont toujours fermes parce qu'elles voient un bien. Il y a un bien qui est au bout du tunnel, il y a un bien qui est au bout de la route. Et de ce bien-là, ce bonheur-là, eh bien, je veux vraiment l'accomplir parce que je sens que ce bonheur-là, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se joue. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire dans quelques pistes sur l'humilité. Et je crois que ce temps de l'Avent, c'est un temps qui nous invite à la conversion. C'est un temps qui nous invite à la confiance. Avec la Vierge Marie, évidemment, la Mère de Dieu, celle qui a accueilli dans la confiance le message du Seigneur, qui a fait preuve l'humble servance, l'humilité. Je pourrais un peu terminer cette méditation par la question de la confiance. Au fond, l'accueil de la limite, ce qu'on a vu par rapport au temps, par rapport au corps, par rapport à notre sensibilité et notre intelligence et volonté, ben,
voilà, est-ce que j'accepte de mettre une limite? Est-ce que j'accepte le réel? Est-ce que j'accepte l'autre qui est autre que moi? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'accepte que, quelque part, je ne domine pas tout? Je ne maîtrise pas tout? Hein, et donc, voilà, je vous invite au fond à oser la confiance. Ça veut dire aussi pouvoir aussi échouer. Est-ce qu'on s'autorise d'échouer? Est-ce que, alors je sais que la vie professionnelle ne vous autorise pas beaucoup, ou alors qu'une seule fois, à la limite, je crois que c'est Ford qui disait « j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'avais jamais deux fois la même ». Et donc du coup, mais en même temps, la nature humaine fait qu'on a besoin de cette... C'est important de laisser le droit à l'erreur, de laisser le droit à l'échec, de laisser le droit à l'imperfection, ne serait-ce que dans nos amitiés, par exemple. Si on doit toujours être au top, toujours les personnes impeccables, les personnes irréprochables, mais c'est juste intenable. Et c'est important que je puisse aussi être pauvre par rapport à l'autre. Dans ma relation amoureuse, hein, dans ma relation amicale, bon, dans la relation professionnelle, c'est plus compliqué parce qu'on ne nous autorise pas trop à ça, mais c'est important qu'on puisse montrer dans là où c'est possible, que je puisse être accueilli dans ma vulnérabilité. Et du coup, c'est ça aussi l'humilité. Je fais pas mal d'accompagnement vers le mariage, je donne beaucoup de temps pour les préparations au mariage, et j'aime bien dire aux couples qui sont en cheminement, est-ce que vous prenez conscience que le mariage c'est aussi l'union de deux pauvres? Que quelque part, tu ne sais pas aimer. Tu ne sais pas aimer et tu ne sais pas... Vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer, nous ne savons pas aimer. Parce que tout simplement, le péché en nous, cette rupture d'avec Dieu qui est amour, a entraîné un éloignement, a entraîné dans notre cœur une dureté et un orgueil et fait qu'il s'oppose directement à l'amour. Mais de prendre conscience et de dire à l'autre, écoute, j'ai le droit d'être aussi imparfait, dans ma propre vie, j'ai le droit aussi d'être vulnérable, c'est capital dans une relation de couple. Alors au début, bien sûr, il n'est pas interdit d'être intelligent, alors on montre plutôt le truc sympa, quoi. Au début, on va montrer les trucs bien de nous, forcément, donc pour appâter le chaland, si j'ose dire. Mais ensuite, si la relation va au-delà de l'émotion paillasson, c'est-à-dire de l'émotion première, et qu'elle s'enracine dans un début de cheminement, dans ce cheminement, il y aura d'une manière ou d'une autre une place pour la vulnérabilité. Et ça, c'est... Si c'est simplement être une superstar et une super en tout, c'est intenable. Et c'est pas vrai. Et c'est pas la réalité. Mais je crois que ça renvoie aussi beaucoup. Comment est-ce que j'ai été traité dans ma vulnérabilité quand j'ai fait confiance, quand j'ai aimé, et peut-être que le respect de l'autre n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc je crois que c'est aussi intéressant de... Parfois, on a été blessé là-dedans. On a été blessé dans notre confiance, dans notre vulnérabilité. Et puis, voilà, c'est peut-être le temps de l'avance, c'est cette manière de refaire confiance, de nous remettre en route, parce que de la main de la Vierge Marie, de la main du Seigneur, parce qu'on sait vraiment que cette humilité, elle conquiert le monde quelque part, elle rayonne, c'est ce qui fait que ça rayonne en nous. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou des... avant de laisser la parole pour l'aspect de la présentation des vins espagnols. Oui. Tout dépend le parallèle entre se mettre au service et l'humilité. Tout dépend l'attitude du cœur. Tout acte en tant que tel, même très charitable, comme on disait dans le jansénisme, les dames de Port-Royal, elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. C'est-à-dire, tout acte en tant que tel, tout dépend. Est-ce que je me mets au service pour qu'on me dise « c'est vraiment super ce que tu fais, t'es vraiment un mec génial » ou est-ce que je me mets au service... Et quand au service surtout de personnes plus pauvres, et ça de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une vraie école. J'étais aumônier de prison pendant des années, Et j'ai vu des tas de personnes qui voulaient être au service de la prison, etc., dans l'aumônerie. Bon. Mais la personne du pauvre, par nature, c'est celle qui va appuyer là où ça fait mal. C'est celle qui va appuyer la violence des prisonniers, par exemple, violence verbale, mais on a déconcerté plus d'un. Justement, la question du service, la question du volontariat ou des actes de... Est-ce que, à un moment donné, je serai face à... peut-être pas un absurde, ce serait fort, c'est quelque part, je donne de mon temps, je donne de mes forces, et enfin, je ne reçois pas. Donc, où est-ce que, quand je suis dans ce service-là, est-ce que je persévère ou est-ce que je me décourage? Et peut-être là, l'humilité, elle peut être dans... Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais elle peut être un peu là-dedans. D'aimer sans attendre de retour, quelque part. Oui, malgré l'adversité. D'autres questions? Alors, pas tous en même temps, mais... Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou réflexion, ou témoignage? Mon point fort, c'est l'humilité, par exemple. C'est justement, ça tombe bien. Là où c'est, je ne sais pas si vous me rejoignez, mais dans la vie professionnelle, c'est plus difficile. Non? Allô? Oui? Oui. C'est ça. Non, c'est pas dissocié, tout à fait. On peut avoir une légitime confiance en soi, tout en se laissant remettre en question, tout à fait. Ça, je pense que... Oui, connaissance des forces et faiblesses, oui. Mais est-ce que j'ai le droit dans le monde professionnel de dire mes faiblesses? Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Oui, tu as eu l'occasion de dire, par exemple, tes faiblesses... D'accord. Oui, quelque part, donc ça aide à la confiance de quelqu'un qui montre ses faiblesses, c'est ça? Oui. Oui. Non, j'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut me dire plus fort? J'ai pas entendu. D'humanisation? L'imagination, d'accord, ok, oui. Oui. Non, c'est l'imagination, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est comme notre sensibilité, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est-à-dire, c'est pas bien ou mal. C'est au contraire, l'imagination. Ça, Aristote, quand il parle de l'imagination, il dit ça remplace l'expérience. Hein, quelque part, l'imagination, ce qu'on acquiert par l'expérience, d'autres l'acquièrent par l'imagination. Parce qu'ils entrevoient des choses. Le chercheur, par exemple, il lui faut de l'imagination. La question, c'est est-ce que cette imagination me coupe du réel et donc, quelque part, me coupe d'une relation à l'autre et me coupe d'une relation à Dieu, qui est le réel par excellence. Donc, c'est plutôt ça. C'est, en tant que tel, c'est impossible de ne pas avoir d'imagination. Bon, parce qu'on veut se projeter, parce que, voilà, c'est juste humain, c'est complètement légitime. Mais c'est pas à elle d'avoir le dernier mot. Elle est là, elle peut nous inspirer, l'imagination qui nous inspire, mais voilà, l'humilité, c'est de le remettre toujours dans le réel. Quoi. C'est pas partir dans un monde autre, vous voyez, dans des gens qui sont, on se demande où est-ce qu'ils sont. Quoi. Ils sont dans, comment vous, ah ben celui-là, il est dans son monde. Vous avez peut-être entendu ça, cette expression-là, celui-là est dans son monde. Voilà, il est dans son trip, mais il n'est pas avec moi. Quoi. Il n'est pas vraiment avec moi. Oui. Voilà. L'humilité, c'est pas la pusillanimité. Je crois que c'est ce qu'on a dit. L'humilité, ça peut impliquer une légitime assurance. On n'a pas à se laisser insulter. La colère peut être une forme d'humilité. Jésus, quand face aux marchands du temple, il y a la colère. La colère, c'est se rebeller face à un mal présent. C'est vraiment, on n'a pas accepté de se laisser marcher dessus. On n'a pas accepté de se laisser insulter. Et c'est pas un manque d'humilité. En tout cas, je ne le vois pas comme un manque d'humilité. De même, on n'a pas accepté de laisser la capacité d'humiliation de l'autre. Ça peut nous habiter aussi. Donc, c'est là où il faut voir. Est-ce que pour moi, me faire marcher dessus, c'est le fait qu'on me remette en cause? Et donc, du coup, voilà. Ou est-ce que le fait de me faire marcher dessus, c'est me laisser humilier? Donc, non, ça, je crois que. Bon, il y a le respect de sa propre dignité. C'est là où je crois qu'il y a la dimension pour le courage, dont je vous ai parlé. Oui? Oui. Alors, tendre l'autre joue, au fond, c'est. Alors, dans la traduction du texte, c'est montrer un autre visage. Et au fond, face au mal, quand on vous frappe, face au mal, est-ce que je réagis avec les passions? Est-ce que je réagis avec la violence? Est-ce que je réagis au mal par le mal? Ou est-ce que je réagis au mal par l'amour? Mais vous voyez une personne déterminé, comme la personne du Christ par exemple, mais une personne qui est très déterminée peut justement, mais en même temps très douce, c'est là où il y a un alliage que le Saint-Esprit peut faire en nous et le seul capable de faire en nous et qu'il faut demander comme grâce, l'alliage entre la douceur et la détermination et la force. Humble, c'est pas être faible. Mais humble, c'est aussi avoir face au mal un autre regard que celui qu'ont la majorité. Du coup, ça veut dire une certaine maîtrise de soi, ça veut dire une certaine confiance que même dans des situations difficiles, je peux les affronter par l'amour. Et je crois que je comprends tendre l'autre joue comme ça, c'est ne laisse pas le mal avoir le dernier mot dans ta vie. En y réagissant de la même manière, c'est ça, à la différence de la loi du talion, œil pour œil, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est la différence de Jésus. Il ne dit pas, laissez-vous humilier par eux, aimez vos ennemis. Ayez une attitude active. Ça peut être aussi dénoncer le mal, l'attitude active. Tendre l'autre joue, c'est dénoncer le mal. C'est mettre l'autre face à ses propres incohérences. Donc je crois que l'humilité, au contraire, mais en même temps, l'autre sent qu'il n'y a pas la violence. Il y a une détermination, mais une détermination qui est douce. Mais ça, c'est très fort. Quand on est face à des personnes comme ça, quelque part, rien ne leur résiste. Parce que ils peuvent faire bouger. Moi, je pense au père... c'est toujours des exemples un peu extraordinaires, mais le père Kolb, par exemple... Le père Kolb, vous connaissez son histoire, dans le bunker de la faim, il a terminé sa vie là, mais il y avait un prisonnier qui s'est échappé. Pour 10 prisonniers échappés, pour un prisonnier, il fallait 10 qui terminent dans le bunker de la faim. Et le commandant du camp choisissait, pendant la guerre, choisissait parmi les 10 comme ça, et il n'avait pas été choisi. Et du coup, il sort du rang et il offre sa vie pour un père de famille qui suppliait la grâce à l'officier allemand parce de ne pas aller dans le bunker de la faim. Un type comme ça, c'est pour moi, c'est ça tendre l'autre. Je ne vais pas laisser le mal, alors qu'on est dans un lieu par définition de souffrance et de mal et d'injustice, je ne vais pas laisser le mal dans ce lieu-là. Il y a une humilité qui est une force et qui, quelque part, bouscule tout, puisque l'officier allemand, personne n'ose venir, t'as pas été choisi, forcément, première réaction, ouf. Et puis non, la réaction de l'amour, c'est que je fais le premier pas et sans durant, que veux-tu? Qui es-tu? Je suis prêtre, catholique, que veux-tu? Je veux mourir pour l'un d'autre, pour qui? Pour l'un d'eux, pour qui veux-tu mourir? Et il désigne le père de famille. Et on fait l'échange.
Mais vous voyez, un acte comme ça, c'est un acte de détermination et de force, et en même temps de grande humilité. Parce que humainement, il n'y a rien à gagner que de terminer sa vie dans le bunker de la femme. Donc, je trouve que, justement, c'est là où on voit que la personne, elle ne se regarde pas elle-même, mais il y a une vraie amour de l'autre, et qui, voilà, je crois que ça peut répondre peut-être à sa question.